Page russe 12-18, Stairway to Zeppelin, number 1. Hier, enfin plutôt mardi, avec le professeur Schmidbly, avec qui nous parlions de Friedrich Nietzsche, Charles Baudelaire notamment, je l'avais fait venir pour Nietzsche d'ailleurs, il a abordé lors de l'interview la spéciale Led Zeppelin diffusée le 26 mars 2025 dans mon show à moi, Helmut Schwartz, dans The Ocean Fortune, diffusée à 21h. Donc c'est moi, Helmut Schwartz, qui est présent aujourd'hui, car Johnny est dans un état second. Toujours, il peut pas parler, il est vraiment... Il n'est pas là, il n'est pas très bien. Donc je décide donc, comme il n'est pas là, je ne sais pas ce qu'il a vraiment en tête, de couper cette émission sur Led Zeppelin et surtout Alan Grant, le manager de Led Zepp, donc de la couper en trois parties et de les diffuser dans les barges russes 12-18, 12-19 et 12-20. Voilà, merci beaucoup. Et donc ça, je le prends sur la Led Zeppelin Jukebox. C'est une compile de blues, énormément de morceaux de blues qui ont inspiré Led Zeppelin. You know, Led Zeppelin on the stage. Jimmy plays in the background. And Led Zeppelin on the stage. Et c'est carrément énorme, quoi. J'avais trouvé ça... quand j'étais en Allemagne, je devais être à... Comment il s'appelle ? Hambourg. Hambourg. Donc, ouais, là, je vais parler de Led Zeppelin. Je vais faire une spéciale Led Zeppelin aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé The Man Who Led Zeppelin. L'incroyable Odyssée de Peter Grant, le cinquième homme. Par Chris Welch, des années 2000, 2011, je sais plus. Non, avant. Et bref, et Chris Well, Peter Grant, c'était donc le manager de Led Zepp. Et j'avais déjà entendu parler de lui, j'avais vu le film The Song Remains the Same de 75, je sais plus, qui n'est pas terrible en soi, mais je l'avais vu dedans et bon, bah, j'en savais rien de plus. Et là, je vois ce livre, putain, waouh, excellent quoi. Tu vois, c'est comme quand on dit le cinquième Beatles, c'est George Martin. Tu sais, c'est lui qui. C'était pas le manager, mais c'était lui qui faisait tous les arrangements studio, quoi. Il avait une grosse connaissance en musique classique, qui apportait les morceaux piano, au début, en tout cas. Et donc là, excellent. Et putain, vraiment excellent. J'ai lu le truc. Donc là, morceau de lettre d'Elvis, parce que bon, Elvis a allumé la flamme à son époque. Dans les années 50-60, à de nombreuses personnes, dont de nombreuses rockstars, rock and roll attitude, you know, yes, I know, et dont Jimmy Page par exemple, Robert Plant, John Bonham, même s'il en parle pas. Enfin, j'avais un livre sur lui que j'ai revendu en anglais, mais qui était quand même bon. On comprenait certaines choses. Et puis John Baldwin, John Paul Jones, le bassiste organiste. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ben, je sais plus. On s'en fout en fait de ce que tu racontes. Hein. Ouais, donc, je sais plus. Ben, en tout cas, je vais continuer. Ouais, donc Elvis a allumé la flamme. Il y a aussi Lennon, Jimi Hendrix. Voilà, pour citer que des plus célèbres, quoi. Et il y en a encore qui sont sûrement plus célèbres qu'eux, mais bon. Et donc, maintenant, on va revenir à Jimmy Page, avec qui tout a commencé, l'aventure Led Zepp. Qui a commencé par les Yardbirds, you know, yes I know, et aussi avant tout ça, avant d'être aux Yardbirds, il faisait beaucoup d'enregistrements, c'était un musicien de studio, donc il a fait pléthore de, il en dit quelques-uns dans le livre, mais bon je les ai pas notés, mais à un moment, à la fin du livre, il parle d'un truc, il parle de Lord Sutch. Et j'ai le disque de Lord Sutch où, attention, il y a Jimmy Page, John Bonham, Jeff Beck, Noel Redding et Nicky Hopkins. Alors Jimmy Page, bon, c'est le guitariste de Led Zepp, John Bonham, le batteur de Led Zepp, Jeff Beck, c'est bon, le guitariste qui a joué dans les Yardbirds et qui était un pote à Jimmy Page. Noel Redding, le bassiste de la Jimi Hendrix Experience, et Nicky Hopkins, un musicien studio clavier. Extrêmement fort, qui a fait beaucoup d'albums avec les Rolling Stones, notamment. Donc on va écouter un morceau de Lord Sutch, un morceau qui s'appelle Thumping Beat, la première de la phase B. Thank you. Ok, donc même si cet album date de 1969, il y avait déjà le Led Zepp qui existait depuis un an, 1968. Il en a fait bien avant, mais celui-là, je l'avais, puis j'aime beaucoup Lord Sutch. J'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert. Et je le cherchais sans le chercher. Je savais qu'il existait, mais je le pensais introuvable. Et puis, bon, je l'avais trouvé. Bref. Et donc, revenons aux Yardbirds, qui était le nid où a tout commencé pour Jimmy Page et Led Zeppelin. Yardbirds, ça a commencé avec Eric Clapton, You Know Baby. Et donc, j'ai trouvé des enregistrements où il y a Eric Clapton et Jimmy Page qui jouent. Et je trouve ça bizarre. Parce que Eric Clapton, c'était le premier guitariste, et puis il est parti pour des raisons solo, pour faire une carrière solo. Et ensuite, c'était Jeff Beck. Donc j'ai des enregistrements qui tombent sous le sens de Jeff Beck et Jimmy Page, mais bon, là, c'est écrit Clapton et Page, donc on va croire ce qui est écrit. Et je vais vous passer Tribute to Elmore, donc c'est un guitariste blues, un bluesman, Elmore James, je crois. Et voilà, on va l'écouter maintenant. C'est parti! Ça, c'est le tribute. C'est Eric Clapton with the Yardbirds and Jimmy Page. Guitare et gros son, hein. On est tous d'accord, j'espère en tout cas. Pas très propre, cela dit, c'est quand même sur laser, mais bon. J'ai compris pourquoi, en fait, j'avais pas regardé très bien, mais c'est donc ce morceau est un morceau de Immediate. Et Immediate, c'était le label de Andrew Luke Allman, qui était le manager des Rolling Stones. Et c'est écrit 75-76. Et donc là, si tu te rappelles ce que je viens de te dire, Jimmy Page était un musicien de studio. Jusqu'à 68, quoi, 76-68. Et même après, vu qu'il a fait un truc avec Lord Sutch. Et d'ailleurs, en parlant de Lord Sutch, The Man Who Led Zeppelin Peter Grant, le manager, n'était pas d'accord avec ça. Et lui, il était contre tout ça. Lui, c'était Led Zepp, un pro-Led Zepp, quoi, si on veut. J'ai retrouvé... donc, c'était Elmore James. Et Elmore James est présent dans... dans la compil que je vous disais que j'avais trouvé à Hambourg, Dust My Broom. Donc on va écouter un court passage. Et donc ouais, c'était un musicien de studio, Jimmy Page, et donc il a pu enregistrer avec Eric Clapton. Ouais, donc en fait... Ouais, donc en fait, ils reprennent, quoi. Ils reprennent Dust My Broom. Ça, vous reconnaissez, c'est la même chose. Avec des grosses guitares à l'anglaise, quoi. Elmore James. marqué, si on veut, par Clapton et Jimmy Page. Et les Yardbirds, il y avait. Parce qu'en fait, c'était le groupe d'Eric Clapton et les Yardbirds. Et il fallait un musicien de studio. Tiens, Jimmy Page était super fort. On a besoin de toi. Viens nous faire du solo, quoi. Et il fait du solo. Bon, voilà pour ça. Et donc, on va continuer encore avec The Yardbirds, you know. Et un morceau que j'aime énormément. Et j'ai vu... c'est dans le film Blow Up. Donc, si vous pouvez le regarder, Blow Up, vous prenez à la bibliothèque, comme vous voulez. Et là, vous regardez, et à un moment, je ne sais plus, c'est aux deux tiers, quoi. Il y a les Yardbirds qui jouent. Vraiment, les vrais, quoi. Et donc là, c'est la première. La 7. Et donc là, et il est dans la BO de Herbie Hancock du film Blow Up. Et là, mais vraiment, quand on les voit, il y a Jeff Beck et il y a Jimmy Page. Et c'est, waouh, c'est beau, quoi. Jimmy Page, mais vraiment, il est beau, quoi. Il est ailleurs, quoi. Mais il est dans un tel truc, quoi. Et dans les années 2000, ils ont sorti un CD avec 4 DVD de concert. Mais à tomber par terre. Et là, j'ai appris que récemment était sorti au cinéma un film sur Led Zeppelin. Donc aujourd'hui, on est le 18 mars 2025. Donc ça va être diffusé peut-être dans un mois, cette émission. Mais on est dedans, quoi, si on veut. Et vraiment, c'est vraiment beau, quoi, voir quelqu'un comme ça. Mais bon, j'ai déchanté en lisant le livre de Alan Grant. Je me suis fait une idée plus vraie, en fait, de Jimmy Page. Bon, on va s'écouter Stroll On, maintenant, qui est un autre nom. C'est un truc avec The Train, Keep the Train Coming, un truc comme ça. Keep the Train Rolling, qu'ils ont changé pour la BO en Stroll On by the Yardbirds. Excellent. Là, il y a Beck et Page. All right, woo!
Ok, donc Blow Up, je le dis, c'est Antonioni, le réalisateur italien de néo-réalisme italien de l'époque des années 60, je ne sais pas combien, 68 peut-être. Et donc, en revenant avec Beck et Jimmy Page, Beck avait donné une Stratocaster, une Telecaster d'ailleurs, à Jimmy Page. Ensuite, les Yardbirds aux États-Unis marchaient pas trop mal. Mais j'ai lu, donc, parce que c'était aussi Alan Peter Grant qui s'occupait d'eux. Parce qu'il a fait plusieurs de groupes avant en Angleterre. Il venait d'un quartier de Londres assez défavorisé. Et puis, bon, il a été amené à être dans le showbiz. Ça lui plaisait beaucoup. Et avant d'arriver à Led Zepp, il a fait d'autres groupes. Et il a, à un moment, il a rencontré des bonnes personnes. Il s'occupait des Yardbirds. Et, enfin, pas lui totalement, mais il a donné des coups de main en tout cas. Et les Yardbirds, d'après ce que j'ai lu, c'était un groupe, mais chacun était sympa, mais ils ne s'entendaient pas très bien. Et aussi, les tournées américaines, ça fatiguait énormément, quoi. Et je pense que on comprend, quoi. Une tournée, ça fatigue, quoi. Voilà. Et les Yardbirds, ils ont splitté en 68. Mais ce qui est important, c'est plus, là j'ai beaucoup appris sur Jeff Beck en fait. Que Jeff Beck, bon, c'était, il est mort l'année dernière. Jeff Beck était quelqu'un de. Bon, au début, apparemment, des Yardbirds, au début de sa carrière musicale, il n'était pas top. Enfin, pas top. C'est par la suite quoi, qu'il a été amené, il a été amené à être découvert si on veut. Et lui-même à découvrir son talent de guitariste. Incroyable. Et j'avais, il y a longtemps, on m'avait offert le CD de Truth and Beckola, qui sont ces deux albums solo, les deux premiers. Et donc, c'est celui qui avait fait le producteur de ce disque, c'est Peter Grant, le manager de Led Zepp. Et donc là, il y a un morceau, You Shook Me. Alors, You Shook Me, ils en parlent à plusieurs reprises. D'ailleurs, Led Zepp là, le reprend au début quand ils font leur premier concert. Mais je vais vous passer. Je vais vous passer You Shook Me. Allez, on va pas chercher plus loin. You Shook Me de son premier album, Truth, T-R-U. Bah, vérité quoi. Vrai, T-R-U-T-H. Donc on a dit You Shook Me. Et donc le chanteur là, c'est pas Robert Plant. Non, non, non. Le chanteur là, il n'y a aucun de Led Zepp. Ah si! Il y a. Ah non. Ah si. John Paul Jones. Un organe. Sur un morceau. Nick Hopkins. Non, en fait, il y a John Paul Jones. Le bassiste de. Bassiste organiste de Led Zepp. Qui joue sur un morceau. All Man River. Mais je vais vous passer You Shook Me. Pour rester un peu dans le même attitude. Et donc, le chanteur, c'est. Rod Stewart. You know you shook me. Nick Hopkins au clavier. You shook me all my love. You love me, baby. Don't you? Et là, j'enchaîne direct par You Shook Me du premier album de Led Zepp, par Led Zepp. Donc je vous passe ces deux morceaux parce que You Shook Me, c'est aussi c'est un morceau de Willie Dixon, le bluesman américain, qui est donc repris par Jeff Beck et par Jimmy Page notamment. En tout cas là, nous concernant, c'est ça qu'on veut dire. Et parce que en réalité, les deux premiers albums, Truth and Beckola, les albums de Jeff Beck, ont été des espèces de prototypes de Led Zeppelin. Il y a vraiment beaucoup de similitudes qu'on peut sentir dans ces albums. C'est fort. Et donc, avant de continuer, on va écouter You Shook Me en même temps, mais comment... Moi, ce qui m'intéressait, c'est les débuts de Led Zepp, même si j'avais pris pas mal de bribes. Déjà, première chose, c'était comment ils s'étaient rencontrés, par quels moyens, d'où venait le nom du groupe. Ça, je l'ai appris en faisant mes recherches. On va d'ailleurs écouter un morceau. Celui que je voulais vous faire écouter tout à l'heure. Ah non, je l'ai pas en fait. Ah bah mince. Bon, c'est pas grave. Je vous raconterai quand même. Et comment ils se sont rencontrés. Bon, il y avait Jimmy Page, qui était musicien de studio, puis qui a été amené à rencontrer Peter Grant, par les aléas du boulot, quoi. Et donc là, il parle, c'est là commence à être la fin de Yardbirds, et à un moment, il se retrouve dans un taxi, Peter Grant et Jimmy Page. Et il demande Peter Grant, mais alors t'as des idées pour le... Et là, à cette époque-là, il a la trentaine d'années. Il a la trentaine, il est de 1936, je crois. Donc il a un peu plus de 30 ans, le Peter Grant. Jimmy Page, lui, il doit avoir, disons, je sais pas, 25 ans, 30, ouais, je sais pas du tout. Et ils se mettent à discuter, ils demandent, mais alors, ouais, est-ce que t'as des projets pour après, les Yardbirds, est-ce que t'as... Et il dit, Jimmy Page, ouais, j'ai des projets en tête. Puis ça s'arrête là. Puis plus tard, bah, ça, ils sont amenés à se revoir. Et là, Jimmy Page va le trouver et dit, il avait déjà remarqué John Paul Jones, le bassiste, en musicien de studio, qui lui faisait la basse et les claviers. Il disait, eux, ils s'entendaient vachement bien musicalement, ils étaient extrêmement professionnels. Après, il faut aussi que je rajoute un truc que j'ai appris. Je pensais que Jimmy Page connaissait la guitare, il l'avait appris à la musique, quoi, au conservatoire. En fait, non, pas du tout. Il a été autodidacte. Et attends, tu le vois jouer, c'est solo et tout. Attends, tu te dis, waouh, quand même, il y en a qui ont des dons, quoi. Et donc, et lui, il a un don, d'ailleurs. On l'entend, là, en ce moment. Et bon, voilà, bon, faut qu'on trouve un truc. Et donc, il cherche des gens, il cherche des personnes. Donc, au début, il voulait jouer avec le chanteur des Small Faces, je crois, Elliot. Non, comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Mariotte. Et puis, bon, en fait, il s'est fait menacer. Il a dit, bah, si tu continues à appeler notre chanteur, on va te casser les doigts, puis on verra comment tu fais de la guitare. Ils lui ont dit à Jimmy Page. Donc, bah, il a laissé tomber. Après, entre parenthèses, Mariotte, déjà, Pete Townshend le voulait dans les Who, parce qu'il en avait ras-le-bol de Roger Daltrey, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais on va rester avec les Who, parce qu'ils avaient aussi émis l'idée, ils avaient eu Keith Moon, donc le batteur, et le bassiste, John Entwistle, qui étaient deux potes inséparables, Il les avait vus et il avait dit, ah tiens, ce serait pas mal que tu joues avec nous. Bon, ouais. Et là, Keith Moon a dit, mais ça tomberait ton truc, ça tomberait comme un ballon plombé. A lead, LEAD, ball, tu vois. Et là, apparemment, John Entwistle reprend, oui, comme un zeppelin de plomb. Et là, Peter Grant, qui était là, il dit, ah ouais, c'est une bonne idée ça, lead zeppelin, un zeppelin de plomb. Et c'est resté comme ça, LEAD, zeppelin. Puis ça fait sa route, et puis voilà, bon, à reprendre plus tard. Et donc là, il y a. Attends, on va passer à notre morceau de musique. On va passer Beck's Boléro, parce que dans la face B de Beck's Boléro, il y a un morceau où justement il y a Keith Moon qui joue. Mais bon, je l'ai pas en disque, je l'ai écouté, il n'est pas terrible non plus. Donc, mais Beck's Boléro est pas mal en revanche. Et donc là c'est Beck, on écoute Beck. Et donc ils sont à la recherche d'un chanteur et d'un batteur pour faire un groupe de rock. Et bon, bah, ils sont dans le milieu des concerts, tu vois, des musiciens, donc ils entendent parler de beaucoup de choses. Et il y en a un pote à Jimmy Page, il dit, ah, il y a ce chanteur, faut que tu ailles le voir. Donc ils font, je sais pas, des centaines de kilomètres, ils vont voir un mec qui s'appelle Robert Plant qui chante. Et à la fin, ils lui parlent, et là apparemment le contact entre Jimmy Page et du Robert Plant s'est fait direct. Donc Robert Plant a été engagé, paf paf, directos. Et ensuite, il fallait un batteur. Bon, alors dans son boulot, lui, Peter Grant, il fallait qu'il aille aux États-Unis assez régulièrement pour s'occuper de ses groupes et de son business, quoi. Et pendant une fois qu'il était aux États-Unis, il y a Jimmy Page qui va avoir un concert au Marquis. À Londres, c'est Leicester Square, j'y étais là-bas. J'y étais, le Marquis est à côté du Leicester Square, en plein milieu de Londres. Et donc là, il va voir et il dit, putain, le batteur, il est excellent. Et il appelle Peter Grant aux États-Unis. Et apparemment, Jimmy Page, c'était un gros radin. Un gros radin, c'est un gros radin de la mort. C'est pour ça que j'ai. Bon, ouais. C'était un gros radin. Et en fait, le fait qu'il appelle Peter Grant aux États-Unis, ça coûtait hyper cher à l'époque. Ça veut dire que c'était un batteur qu'il fallait absolument voir. Et qui, si lui disait qu'il était bon, c'est qu'il était bon. Bon, John Bonham, lui, c'était le batteur, jouait dans un autre groupe. Il a fallu. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, sa venue. Mais bon, il a fini par venir. Et dans ce bouquin, je vous disais, ce que j'avais lu sur Bonham, j'avais lu qu'il faisait de la batterie dans la caravane qui était à côté de chez son père, et ça se passait pas très bien avec ses parents, pour cause de l'alcool. L'alcool était très présent. Et ça, après, j'ai appris que Iggy Pop, c'était la même chose. Il était batteur et il jouait dans la caravane à côté de chez ses parents. Donc cela étant dit, voilà, Led Zeppelin est formé. Et donc les Yardbirds devaient approcher de la fin, là. Jimmy Page était assez présent pour lors des tournées, parce qu'il était assez plus frais et plus jeune que Jeff Beck. Et voilà. Et donc il parlait d'éventuellement nommer son groupe The New Yardbirds, les nouveaux Yardbirds. Et bon, bah, ça lui plaît, ça lui plaît pas. Et puis en fait, bon, bah, ils ont fini par s'appeler Led Zeppelin. Et en réalité, ils ont barré le A et ça avait fait Led Zeppelin. C'était encore mieux, quoi. Enfin, je trouve, il a eu raison. Donc maintenant, le premier album. Bon, c'est dur de penser ça, hein, mais. Donc en Angleterre, t'avais, comment il s'appelle? Peter Grant essayait de faire venir des promoteurs pour qu'ils jouent dans d'autres endroits, bien qu'ils jouaient déjà pas mal à Londres, mais c'était différent peut-être d'aujourd'hui, quoi. Les gens, les promoteurs, ceux qui avaient des salles, ceux qui pouvaient planifier des dates, ils ne se déplaçaient pas aussi facilement que ça. Et bon, ça n'a peut-être pas changé ça, mais ça n'existe plus de toute façon. Ça a tellement changé. Et là, devant les salles de concert, devant le Marquis par exemple, il y avait une queue, mais de malade, quoi. Des queues de fous pour aller voir, pour acheter une place, pour aller voir Led Zepp, quoi. Et donc ça marchait vachement bien, le bouche à oreille. Quoique pas tant que ça, parce que les mecs voulaient pas aller le voir, ceux qui pouvaient en tout cas. Bon. Faut prendre ce qu'on a envie. En tout cas, bon, un jour il y en a un qui va les voir. Et il jouait extrêmement fort, il n'est plus resté que trois morceaux. Mais il a dit waouh. Et pendant ce temps, donc ça c'est Dazed and Confused. Pendant ce temps, Alan Grant continuait d'aller aux États-Unis et à trouver des concerts. Dazed and Confused. For so long it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. barge russe. Tous les jours sur Jet FM. Avec Johnny Tubek et Helmut Schwartz. 14h. Schwarz is a ruin fortune. Le mercredi par quinzaine, 21h.